Les zoos respectent-ils les droits des animaux? Nous recevons aujourd'hui à nos micros Éric Baratet, professeur d'histoire à l'université, spécialiste de la question animale. Bonjour, monsieur Baratet.
Bonjour à vous.
Monsieur Baratet, pouvez-vous nous dire depuis quand les zoos existent?
Les ancêtres des zoos apparaissent au XVIe siècle, au moment des grandes découvertes et du développement du commerce et des voyages. À cette époque, les animaux dits exotiques sont très rares et coûtent très cher. On ne connaît que peu leur mode de vie, ce qui entraîne une très forte mortalité et donc un besoin de les renouveler souvent. Ces ménageries, comme on les appelle, sont donc réservées aux princes ou aux cardinaux. On les trouve essentiellement en Italie, autour de Rome ou de Florence. Les animaux ont vocation à être vus,
ah oui,
parce qu'ils sont beaux et étonnants, ou à participer à des combats, qui opposent par exemple des lions ou des éléphants à des bêtes domestiques ou à des loups.
Les missions des zoos ont-elles changé au fil des siècles?
La vraie mission des zoos est celle de la distraction de la population. Mais face aux critiques des associations qui refusaient de sacrifier les animaux pour amuser les hommes, les zoos ont réagi en établissant d'autres buts, qui sont à la fois des réalités et des paravents. La conservation et protection des bêtes et leur réintroduction. La réintroduction, dont on parlait beaucoup dans les années 1970, a été en grande partie abandonnée. En raison du phénomène de dérive génétique, les animaux qui sont en captivité, depuis plusieurs générations, ne ressemblent plus à leurs ancêtres sauvages et vont donc avoir énormément de mal à se réinsérer. D'autant que l'on n'est pas parvenu à préserver leur milieu naturel.
Mmh.
La notion de conservation est, elle aussi, à double tranchant. Si des espèces ont bel et bien totalement disparu en dehors des zoos, les animaux en captivité changent. Ce ne sont plus des animaux sauvages, comme on les connaissait autrefois. Si on voulait véritablement conserver les animaux dans leur état initial, il faudrait les détenir dans des enclos beaucoup plus grands et naturels. Mais les directeurs n'auraient plus de garantie que le public puisse les voir. Les zoos sont donc obligés de concilier un objectif de distraction du public, pour que ce dernier vienne et paye, et une mission affichée de conservation qui présente beaucoup de limites.
Et dans quelle mesure le rapport entre l'homme et l'animal a-t-il progressé au sein des zoos?
Il y a eu une exigence de plus en plus forte de l'opinion publique pour des meilleures conditions de vie des animaux, qui tiennent davantage compte de leur bien-être et moins la distraction de l'homme. Beaucoup de zoos présentent par exemple des animaux en groupe et de moins en moins d'individus isolés, car le public ne veut pas voir des bêtes stressées ou malheureuses, et a, par ailleurs, la volonté de connaître le comportement de l'animal, tel qu'il évoluerait en liberté. Les zoos les plus modernes d'aujourd'hui, naturalisés, n'ont plus grand-chose à voir avec ceux des années 1960. Mais toute l'ambiguïté des zoos, et plus largement de la relation homme-animal, c'est que le public voudrait voir des animaux en liberté, comme s'ils étaient dans leur milieu naturel, tout en acceptant qu'ils soient détenus dans des enclos, seule condition pour parvenir à les voir, qui limite cette vie naturelle.
Mmh. Faut-il remettre en cause le principe même des zoos, au nom d'un souci éthique?
C'est à double tranchant. Sur le principe, on peut dire que les zoos ne sont pas éthiques, puisqu'ils ont pour vocation de maintenir en captivité des animaux, à des fins de distraction humaine. Mais, dans le même temps, ils ont pu servir à rapprocher les gens des animaux.